Un autre regard. L'extermination du Parti communiste indonésien. Le 30 septembre 1965 commençait en Indonésie, le quatrième plus grand pays du monde, riche de nombreuses matières premières, un massacre inouï qui fera entre 500 000 et 1 million de victimes, assassinées, torturées, jetées dans des fosses communes et des centaines de milliers emprisonnés pour des années dans des camps. Par ce coup d'État, la classe dominante indonésienne voulait éradiquer d'un seul coup l'ensemble des contradictions qui minaient le pays et principalement à faire disparaître le parti communiste, le PKI. C'était le troisième parti communiste au monde, peut-être 3 millions de membres. Il regroupait dans un syndicat, une association paysanne, des mouvements féminins et jeunes, une fédération d'artistes, jusqu'à 20 millions de membres sur une population de 115 millions. Et au plan électoral, talonnait les partis nationalistes et islamistes. Il s'était construit depuis les années 20, dans les mobilisations populaires, dans les campagnes, dans les usines, et dans la lutte de libération nationale contre le colonisateur néerlandais, en rivalité avec les courants musulmans et les nationalistes de Sukarno. Sukarno, président de l'Indonésie à l'indépendance de 1948, voulait forger l'unité nationale autour du slogan « Une patrie, une nation, une langue ». Il est connu comme l'une des figures du mouvement des longs alignés, l'organisateur de la conférence de Bandung en 1955, qui montra l'éveil du tiers-monde en réunissant 25 pays d'Afrique, d'Asie, dont l'Inde de Nehru et la Chine de Mao Tse-tung. Mais c'est aussi un nationaliste populiste et autocrate qui a réprimé de nombreux mouvements de contestation. En 1959, il lance la démocratie dirigée, qui renforce considérablement son pouvoir présidentiel en s'appuyant sur le PKI qui à cette occasion abandonne la stratégie de l'insurrection armée. En effet, soucieux de l'alliance avec le président dit anti-impérialiste, il ne lance pas à l'assaut du pouvoir les mobilisations populaires, paysannes et ouvrières contre les propriétaires terriens et la nouvelle bourgeoisie industrielle. Il se tourne vers une conquête du pouvoir dans la légalité par la construction d'une hégémonie dans la société avec ses organisations de masse. En même temps, l'armée, soutenue par les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les secteurs anticommunistes, prend le contrôle de la bureaucratie administrative dans l'ensemble du pays et seule l'armée a accès aux armes. Aux yeux des États-Unis engagés dans le bourbier vietnamien, Sukarno apparaît de plus en plus incontrôlable. Or, ils ont besoin d'alliés fiables pour isoler les révolutions chinoises et vietnamiennes, pour contrôler les voies maritimes entre océan Indien et Pacifique et accéder aux énormes richesses de l'Indonésie. Pour garder dans le giron impérialiste le plus grand pays musulman du monde, il faut absolument éliminer le Parti communiste, un des piliers du régime de Sukarno, puis toute la gauche indonésienne. L'élément déclencheur est une tentative de coup d'État du 30 septembre 1965 par quelques militaires partageant les positions du PKI, qui donne l'occasion au général Soeharto de prendre le contrôle total de l'État et de lancer des milices civiles soutenu et encadré par les militaires dans une campagne d'assassinat atroce, massif, systématique, contre le PKI et ses sympathisants, mais aussi contre les travailleurs agricoles partisans de la réforme agraire et tous les opposants. Les tueries durent plusieurs mois. Le PKI ne parvint à aucun moment à mettre en place une riposte. Ses dirigeants sont assassinés ou condamnés à mort. Il est rayé du paysage politique. Comme le dit en 1965 l'ambassadeur des États-Unis à Jakarta, les États-Unis voient plutôt d'un bon œil et admirent ce que l'armée est en train de faire. Ce massacre indonésien est pour les États-Unis une image inversée du Vietnam. La dictature indonésienne qui s'installe renforce d'une pièce maîtresse leur arc d'endiguement de l'Asie communiste avec la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines. Cette liquidation réussit parallèlement à l'arrivée au pouvoir de la dictature militaire brésilienne l'année précédente, a servi de modèle pour les stratégies d'élimination des mouvements de gauche en Amérique latine. Opération Jakarta fut un des noms de code utilisés par les tortionnaires préparant leur passage à l'offensive au Chili en septembre 1973.
Chaque vendredi sur le site du NPA 76, retrouvez Un autre regard, podcast sur l'histoire des luttes des exploités et des opprimés contre les dominants, loin de l'imagerie officielle, y compris à gauche, ces moments qui éclairent les combats d'aujourd'hui.